Vous êtes sur RTL.
Bonsoir à toutes et à tous. L'offensive militaire turque en Syrie. Ce soir, la France se dit inquiète. Près de 800 personnes, des familles de djihadistes, se sont déjà évadées d'un camp. Paris et Berlin appellent le président Erdogan à arrêter au plus vite son intervention. Au grand jury sur RTL, Jean-Pierre Raffarin s'est interrogé. Les Américains sont-ils encore nos alliés ? J'en doute, a répondu l'ancien Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin qui annonce par ailleurs qu'il va quitter les Républicains.
Je n'ai pas renouvelé ma cotisation, et donc quand on ne renouvelle pas sa cotisation, on reste dans le parti pendant un an.
Donc vous n'y êtes plus.
Je vais partir des Républicains, évidemment.
Jean-Pierre Raffarin, au grand jury, annonce le jour où l'on élit le successeur de Laurent Wauquiez. Les premières estimations des résultats sont attendues vers 20h30. À 17h, 53 000 adhérents avaient voté. Taux de participation 40%, nous signale Marie Mollet. Au lendemain du fiasco dans l'affaire du pont de Ligonnès, la police écossaise refuse toujours le moindre mea culpa. On va appeler Marie Billon. En banlieue parisienne, plus de 1500 personnes ont défilé ce matin en silence pour rendre hommage à Kevy, ce lycéen de 15 ans assassiné la semaine dernière. Dans ce journal également, on ira à Bonifacio, au sud de la Corse, où un cargo s'est échoué la nuit dernière dans une réserve naturelle. Aucune pollution constatée, mais colère des habitants. On entendra Didier Deschamps à la veille d'un France-Turquie à haut risque. Et puis 25 degrés et un ciel tout bleu. Voilà le temps qu'il faisait cet après-midi à Lacanau en Gironde. Condition estivale pour un 13 octobre. 18h20, l'invité de RTL dimanche soir sera Mgr Benoît de Cinetti, vicaire général du diocèse de Paris. On fera le point avec lui sur l'avancement des travaux 6 mois après l'incendie de Notre-Dame. Les courses cet après-midi à Auteuil, fallait jouer le 5, le 15, le 9, le 12 et le 2. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Je le disais, aujourd'hui on a eu droit à une douceur exceptionnelle, à une semaine des vacances de la Toussaint. Est-ce que ça va durer ?
Alors ça va durer, oui, demain, mais uniquement pour les régions les plus à l'est, entre la Lorraine, l'Alsace, en descendant jusqu'à la région PACA. À l'arrière, une dégradation va arriver, elle sera d'ailleurs assez sérieuse, et du coup on va avoir une grande fourchette de température. On partira de 14 degrés à Brest pour atteindre 29 degrés à Montluçon.
Merci Valérie, prévision complète pour la semaine à la fin de ce journal.
RTL dimanche soir. Philippe Robuchon.
Malgré les critiques internationales, la Turquie continue de pilonner le nord de la Syrie. Impossible d'avoir un bilan précis. Tout à l'heure, une ONG parlait d'au moins 26 morts chez les civils. Ce qui est sûr, c'est que les craintes de l'Occident se vérifient. On a appris ce matin qu'en raison de la fuite de ces gardes kurdes, un camp, le camp d'Ayn Issa, situé dans la région de Raqqa, était désormais hors de contrôle. Près de 800 hommes et femmes, des proches de djihadistes, ont commencé à s'enfuir et à s'évanouir dans la nature. Le gouvernement français se dit inquiet par la voix de sa porte-parole Sibeth Ndiaye. Angela Merkel enjoint le président Erdogan d'arrêter son offensive, une offensive facilitée par le départ des soldats américains. Plus de 1000 d'entre eux vont quitter la région, a confirmé tout à l'heure le Pentagone. La responsabilité américaine est immense, a dit Jean-Pierre Raffarin au grand jury sur RTL. À tel point que l'ancien Premier ministre s'est interrogé, les Américains sont-ils toujours nos alliés ?
Est-ce que l'ambition des États-Unis n'est pas la déconstruction de l'Europe ? Derrière cette affaire kurde, qui est une affaire scandaleuse du point de vue humanitaire, avec des gens qui nous ont aidés, mais derrière ça, il y a des risques énormes sur le terrorisme, et ces risques-là ne vont-ils pas conduire à ce que l'Europe ait une menace supplémentaire à affronter ? Alors c'est la question qui est posée par cette intervention sur les États-Unis depuis le début. Et avant Trump. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est où on en est de l'alliance avec les Américains ? Ils nous obligent de fermer Total et de fermer Peugeot en Iran. Quand on voit que le président Trump va en Grande-Bretagne, il faut libérer le Royaume-Uni des chaînes de l'Europe. Dans la crise de la dette, qui a acheté les euros pour nous protéger ? Ce sont les Chinois, ce ne sont pas les Américains. Et que dit Wall Street tous les jours ? Que l'euro n'a pas d'avenir. Donc il y a vraiment, dans de grands nombreux milieux américains, des positions anti-européennes.
Justement.
Est-ce que les Américains, aujourd'hui, sont des alliés de l'Europe ? J'en doute.
Voilà, Jean-Pierre Raffarin, au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. On le réécoutera tout à l'heure plus longuement dans le MacPol à partir de 18h30. En raison du contexte international, le match de football France-Turquie demain soir au Stade de France est placé sous haute sécurité. 600 policiers et 1400 stadiers mobilisés, c'est 300 de plus que d'habitude. Impossible de savoir combien de supporters turcs seront dans les tribunes. Certains évoquent le chiffre de 30 à 40 000. On y reviendra tout à l'heure dans les sports. En Tunisie, second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Je rappelle qu'il opposait Nabil Karoui, un magnat des médias, tout juste sorti de prison, à Kais Saied, un professeur de droit totalement néophyte en politique. Au Japon, le bilan du typhon Hagibis est d'au moins 26 morts. De nombreuses personnes sont portées disparues ce soir et des milliers d'habitants ont été piégés par la montée des eaux. Au lendemain du fiasco général dans l'affaire du pont de Ligonnès, la principale victime de la méprise, le citoyen franco-portugais Guy Joao, se cache toujours. « Je n'ai rien à dire, oubliez-moi », a-t-il simplement lancé aujourd'hui à un confrère du Parisien. Pour l'instant, officiellement, personne ne veut porter le chapeau de ce qui s'est passé. Marie Billon, vous êtes à Glasgow pour RTL. La police écossaise a-t-elle commencé un début de mea culpa ?
Alors écoutez, rien de tout ça. Hein. Officiellement, l'affaire est close. La police écossaise n'a plus rien à dire. Alors c'est vrai que dans les communiqués officiels qu'elle a publiés, elle a toujours parlé d'un homme arrêté sans évoquer de nom. Un journaliste britannique du quotidien Daily Telegraph, une source policière a affirmé n'avoir jamais confirmé l'identité du suspect aux autorités françaises. Mais la source aurait ajouté cette phrase, prononcée moitié en anglais, moitié en écossais, c'est un peu tôt pour dire que c'est nous qui avons fait l'erreur. Ce qui laisse penser que Police Scotland est quand même en train de vérifier ce qui s'est passé sous la forme d'une possible enquête interne. Alors, les officiers écossais ont-ils vraiment dit « Nous avons votre homme » sans utiliser le conditionnel, comme on le dit en France ? Il n'y a pas de démenti officiel, mais au Daily Telegraph, la même source a suggéré que ce sont les autorités françaises qui se seraient emballées. Le tabloïd Le Sun, lui aussi, retrace ce qui s'est passé et selon lui, quand les policiers français ont dit aux écossais que l'homme arrêté ne ressemblait en rien à Xavier Dupont de Ligonnès, c'est bien Police Scotland qui aurait suggéré qu'il aurait pu changer son apparence. La presse britannique, en tout cas, a peu suivi l'affaire ces derniers jours, mais elle se concentre aujourd'hui sur le match des critiques à travers la Manche.
Marie Billon à Glasgow pour RTL. En France, environ un millier de personnes ont marché en silence ce matin pour Kevi. Kevi, adolescent de 15 ans, tué la semaine dernière pendant un cours de sport au stade des Lilas en Seine-Saint-Denis. Il avait eu le malheur de vouloir s'interposer lors d'une rixe due à une guerre entre quartiers. Trois jeunes mineurs sont depuis mis en examen et écroués. Ce matin donc, la marche blanche est partie de la commune voisine du Pré-Saint-Gervais où habitait le jeune homme. Bonsoir Thomas Dulin.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce moment très émouvant.
Oui, le cortège a cheminé jusqu'à la rue Jean Jaurès où a été poignardé Kevi. En arrivant sur les lieux, la mère du jeune homme tombe à genoux et s'effondre. Dans le cortège, beaucoup de jeunes, les amis de Kevi, mais aussi des professeurs, des parents, tous saluent la mémoire d'un adolescent souriant, gentil, jamais mêlé aux histoires de bandes rivales. Un hommage qui réconforte l'oncle du jeune homme.
Ça nous fait chaud au cœur. Ces gens sont touchés par la mort de Kevi, mais ça aurait pu être leurs enfants qui auraient pu mourir ce jour-là. Donc ils se sentent concernés et ils veulent que les pouvoirs publics agissent, réagissent par des actes concrets.
Les pouvoirs publics justement étaient présents. Le maire des Lilas, Daniel Guiraud, a pris la parole devant la foule.
Puisse cette marche être la dernière, car malheureusement, Aboubacar de Bagnolet, il y a un an, Cameron à Romainville, il y a 4 mois à peine, et aujourd'hui Kevi, il n'est pas question de rester l'arme au pied en attendant le prochain. Plus jamais ça.
Un discours auquel ne croient plus Céline et Lucie, 15 ans, des amis très proches de Kevi.
C'est pas parce qu'il y aura un maire qui va dire qu'il faudra arrêter que je pense pas que les jeunes, il leur en faut plus. Hein. En fait, il faut que ça s'arrête, mais ils veulent pas. Personne va s'arrêter. Ça va arriver à Kevi, ça peut être nous, demain. C'est comme ça depuis 30 ans, c'est pas maintenant que ça va s'arrêter.
Et de son côté, la famille de Kevi appelle au calme et ne veut pas que la mort du jeune homme engendre d'autres violences.
Merci Thomas Dulin. Il est 18h09 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal, on va prendre des nouvelles du cargo qui s'est échoué la nuit dernière en Corse, tout près de Bonny. Facio.
Philippe Robuchon. RTL Dimanche Soir. RTL Dimanche Soir. Philippe Robuchon.
Un cargo transportant des bobines d'acier s'est donc échoué la nuit dernière au sud de la Corse. Malgré les appels radio qui le mettaient en garde, il s'est retrouvé coincé sur des rochers en plein cœur de la réserve naturelle. Les 7 membres d'équipage sont sains et saufs, ils ont été élitreuillés. Apparemment, aucune pollution n'est détectée. Il n'empêche, les habitants sont inquiets et surtout très en colère. Écoutez ce reportage de l'envoyé spécial de RTL en Corse, Étienne Baudu.
Ah oui, Jean-Michel Couglioni de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ne décolère pas, on a vraiment frôlé la catastrophe.
Ce bateau arrive à 3h du matin, il trace tout droit à l'intérieur de la zone de protection renforcée, en dehors de toutes les routes de navigation dans les Bouches, ne se signale pas aux deux sémaphores de Pertusato et de Madeleine qui tentent pendant 50 minutes de lui dire « Attention, vous êtes dans une zone de navigation interdite », personne ne répond et on est vraiment dans une situation où ça a été extraordinaire que ce bateau ne soit pas plus au large et qu'il n'ait pas coulé dans cette zone de protection renforcée.
Alors pour le moment, le cargo est posé sur les rochers, il ne tangue pas, la mer n'est pas trop forte et aucune pollution n'est visible. Mais le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, s'inquiète. Cet été, un yacht a coulé dans les Bouches, des dégazages ont eu lieu et maintenant ce cargo qui s'échoue, il demande une meilleure protection de cette zone, l'une des 13 zones les mieux protégées au monde, comme la barrière de corail par exemple.
Aujourd'hui, il faut que dans le canal de Corse, on se donne les moyens d'avoir un système de pilotage. Tout simplement imposé, comme quand vous rentrez dans un port aujourd'hui, des grands bateaux ont l'obligation de faire appel à des pilotes qui connaissent parfaitement les lieux, qui montent à bord du bateau et qui prennent en main le passage dans cette zone à risque.
Alors est attendu sur place le remorqueur de haute mer, l'Abeille Flandre, basé à Toulon, pour un désenchouage qui sera sans doute très délicat.
Étienne Baudu, envoyé spécial de RTL en Corse. En sport, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale du mondial de rugby. Les matchs se joueront le week-end prochain. Samedi, Angleterre-Australie et Nouvelle-Zélande-Irlande. Dimanche, Pays de Galles-France et Japon-Afrique du Sud. Les Japonais derniers à se qualifier ce matin grâce à leur victoire face à l'Écosse 28-21. Les Gallois, nos futurs adversaires, ont battu l'Uruguay 35-13. Enfin, les Tonga ont battu les États-Unis 31-19. En top 14 de rugby, cette fois, le Stade français joue en ce moment contre Toulon. On est à un quart d'heure de la fin. Le stade mène 26-23. Ce soir à 21h, Bordeaux-Bègles accueille Clermont. Formule 1, le Grand Prix du Japon, malgré le typhon, remporté ce matin par le Finlandais Valtteri Bottas devant l'Allemand Sébastien Vettel. Sans attendre la fin de la saison, Mercedes est sacré champion du monde des constructeurs pour la sixième année consécutive. Puis en football, je vous le disais, la rencontre France-Turquie demain soir sera à haute tension au Stade de France. Non seulement les Bleus peuvent décrocher un billet pour l'Euro 2020, mais le contexte international risque de peser. Dans les tribunes du Stade de France, on attend plusieurs dizaines de milliers de supporters turcs. On se souvient qu'à l'aller, la Marseillaise avait été copieusement sifflée. Didier Deschamps veut malgré tout rester serein.
On est dans une affaire sportive, voilà, on est dans le stade, il y aura une ambiance, une belle ambiance, c'est évident. Après tous les problèmes géopolitiques, ils sont là, mais que ça ait des conséquences forcément sur l'environnement du match. Mais voilà, on va pas penser à ça, un match de football dans un stade de football, donc faire en sorte d'être resté concentré là-dessus. Quoi. Chacun est libre de parler, d'écrire, de faire de mélange. Là, on est dans une sphère sportive et ce qui m'intéresse, c'est uniquement le match et ce qui se passera sur le terrain.
Didier Deschamps au micro RTL de Nicolas Georgerot. Allez, avant d'écouter les prévisions météo de Valérie Quintin pour la semaine, on va prendre un grand bol d'air et de douceur, incroyable douceur pour cette mi-octobre. Il a fait, écoutez bien, jusqu'à 31 degrés cet après-midi à Mont-de-Marsan. Au bord de la mer, évidemment, un peu moins chaud, mais 25 degrés tout de même sur la grande plage de Lacano en Gironde, où s'est rendu pour RTL Jean-Marc Terrier.
Oui, cette plage centrale de Lacano a retrouvé l'affluence et les équipements du plein été, parasol, lunettes de soleil, crème solaire et pour les plus chanceux, un petit repas sur la plage.
Cuisse de poulet, chips.
Ah bah poulet du dimanche. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est génial. On se croirait en vacances.
Avec 25 degrés sur le sable, il y a même des jours où cet été il faisait beaucoup moins chaud.
Bah c'est magnifique. Après une semaine de boulot, on est venu vite là, à Lacano là. Et c'est magnifique.
Alors bien sûr, il y a un peu de vent, l'océan est agité, mais pas question de rater l'occasion de prendre un bain.
Elle est hyper bonne, elle est chaude et c'est un peu une bouffée d'oxygène.
Sans oublier tout de même quelques règles élémentaires de prudence.
On met les pieds un peu dans l'eau et on reste au bord. Hein.
Ouais.
Parce qu'on sait que c'est dangereux.
Le petit Evan, 7 ans, agent l'utile à l'agréable.
Il m'a fait du sauvetage côtier. C'est comme une école où on apprend à aider les personnes, où on apprend les gestes de secourisme.
Sur ces plages du Médoc, depuis jeudi dernier, deux retraités et une jeune fille de 25 ans se sont noyés.
Un reportage de Jean-Marc Terrier à Lacanau pour RTL. Valérie Quintin, rebonsoir.
Rebonsoir.
Alors demain, côté météo, du changement, mais seulement à l'ouest.
Oui, parce que dans l'est, on va avoir à peu près le même temps qu'aujourd'hui, avec du plein soleil entre la Lorraine, l'Alsace, en allant jusqu'à la région PACA. Il y aura simplement quelques petites averses sur le relief corse en seconde partie de journée. Pas mal de vent quand même, hein, en Méditerranée. Et puis il y a toujours un petit peu d'instabilité en Roussillon, notamment au pied des Cévennes, mais ce sera vraiment pas trop sérieux. Et puis à contrario, à l'arrière, dans l'ouest, une dégradation va arriver. On a déjà les premiers signes. Ce soir, on va avoir des pluies soutenues sur une grosse façade ouest dès demain matin, des pluies qui avanceront peu à peu et qui concerneront donc toute la moitié ouest dans le courant de la journée, avec localement de la grêle dans le sud-ouest précisément. Il se baignait aujourd'hui, bah demain ce sera exactement l'inverse. Et de fortes rafales de vent également, d'ailleurs ça pourrait souffler jusqu'à 120 km/h sur les crêtes pyrénéennes. Les températures vont amorcer la descente par l'ouest aussi. 14 degrés à Brest demain après-midi, 15 à Dinan, 19 à Rennes, il fera encore 21 degrés à Lille, 24 degrés à Paris, à Orléans, à Colmar et Saint-Étienne, 26 pour Marseille, Lyon, Toulouse et Limoges, 27 degrés à Bordeaux et 28 à Avignon, à Auxerre et à Montauban.
Alors ça, c'était pour demain. Pour le reste de la semaine, pour dire que le temps va continuer à jouer au yo-yo.
Exactement, on va avoir pratiquement une dégradation par jour, à chaque fois dans le même sens, d'ouest en est. Alors mardi, celle de la veille, on va la retrouver sur les régions de l'est avec des pluies soutenues. Les températures vont commencer à baisser assez nettement. D'ailleurs, la limite pluie-neige s'abaissera aussi. On va la retrouver aux alentours de 1600 à 1800 mètres sur les Savoies. Mercredi, on fera un break dans l'est, ça va aller mieux. À l'ouest, une nouvelle dégradation arrivera. Jeudi et vendredi, pareil, ça va balayer sans arrêt. Les températures donc vont baisser. On va se retrouver avec une moyenne de 17 degrés au nord, 21 à 22 degrés maximum pour la moitié sud. Une fraîcheur qui se confirme et qui s'accentue pour le week-end prochain. Ce sera vraiment l'automne cette fois, avec un temps assez maussade d'ailleurs.
Merci Valérie Quintin pour ces prévisions très complètes. Il est 18h18 sur RTL. Dans un instant, l'invité de ce RTL dimanche soir sera Benoît de Cinetti, vicaire général du diocèse de Paris. On va parler avec lui de la reconstruction de Notre-Dame. Ça fait déjà 6 mois que le toit de la cathédrale a brûlé.